Amin Maalouf, vous publiez un essai aux éditions Grasset intitulé « Le dérèglement du monde ». Votre livre est un livre essentiel, un des grands livres de notre temps, disait Jacques de Decker à votre propos. À chaque page, le lecteur s'arrête et nourrit sa réflexion, enrichit sa connaissance et surtout multiplie sa vision du monde et éradique ainsi les préjugés inspirés par le cynisme, l'ignorance ou l'indifférence. Amin Maalouf, vous avez choisi la forme de l'essai. Est-ce que c'est parce que le roman, parce que vous êtes aussi un grand romancier, est-ce que c'est parce que le roman ne parvient pas à aborder quelque chose d'aussi complexe que le dérèglement du monde ?
Il me semble qu'à un moment, on a besoin d'une réflexion et d'une expression qui soit précise. J'éprouve le besoin de formuler un certain nombre de choses avec des mots que je trouve adéquat, quitte à reprendre les mêmes thèmes dans un roman. C'est souvent ce que je fais d'ailleurs. J'avais écrit un peu, il y a une dizaine d'années, un essai qui s'intitulait « Les identités meurtrières ». Et dans cet essai, je formulais un certain nombre de réflexions qui se trouvaient déjà dans mes romans. Et je dirais à peu près la même chose du dérèglement du monde. Il y a un certain nombre d'idées, de préoccupations, d'inquiétudes qui étaient déjà dans certains de mes romans. Et j'avais envie de transmettre une inquiétude, une certaine gravité que je ressens par rapport à ce qui arrive dans le monde. C'est un moment de méditation, c'est un même moment peut-être un peu pédagogique aussi, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a envie d'apprendre et de transmettre. Mais je crois que ce que je dis dans ce livre, je le redirai aussi à travers des romans.
On imagine très bien d'ailleurs un personnage romanesque qui serait un professeur ou un enseignant, puisque pour vous, une des thèses que vous développez dans la partie espérance de ce livre, c'est que la priorité pour résoudre la crise que nous traversons aujourd'hui entre l'Orient et l'Occident notamment, ce serait de donner la primauté absolue à l'enseignement et à la culture.
Je pense effectivement que nous avons besoin de redéfinir une échelle de valeurs aujourd'hui. Et je suis persuadé que dans cette échelle de valeurs, il y a une place primordiale qui doit être accordée à la culture. Pour diverses raisons. Je pense d'abord que le monde d'aujourd'hui est un monde où on a besoin d'une gestion des ressources, aussi bien pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques. Nous sommes dans un monde où il y a de plus en plus de personnes qui accèdent à la consommation. Nous savons que la planète ne peut pas longtemps fournir tout ce dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas demain avoir un milliard d'automobiles en plus. Et en même temps, nous n'avons pas le droit de dire à une partie de l'humanité vous n'aurez pas le droit de consommer comme nous consommons depuis quelques dizaines d'années ou quelques siècles. Et donc, nous avons besoin de satisfaire les besoins des hommes, de satisfaire au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire d'accorder des satisfactions qui ne soient pas nécessairement reliées à une consommation matérielle. Et nous avons besoin d'apprendre à obtenir des satisfactions qui ne viennent pas uniquement de la consommation. Et où pourrons-nous trouver ces satisfactions? Je pense que ces satisfactions ne peuvent venir que de l'acquisition de la connaissance. Et je pense que nous allons voir dans les années qui viennent avec les progrès de la médecine, que nous allons vivre de plus en plus longtemps, que nous aurons tous, on peut l'espérer, des dizaines d'années de loisirs. nous avons besoin de les meubler, de les remplir avec quelque chose qui a un sens. Avec quoi d'autre qu'avec l'acquisition des connaissances, avec l'acquisition de langues, de cultures, avec une connaissance plus grande chez chacun d'entre nous, de ce qui se passe dans le monde, dans la science, dans tous les aspects de la connaissance. Et de ce point de vue, je crois que nous avons besoin d'un monde qui soit refondé sur l'enseignement et sur la culture. Il y a une autre raison également, c'est que nous sommes dans un monde où beaucoup de gens se côtoient au sein de toutes nos sociétés, des gens qui viennent de cultures différentes, d'origines différentes, et jusqu'à présent, nous avons une sorte de tous, et je ne m'exclus pas du lot, nous avons une certaine paresse dans notre relation avec les autres. Moi, il m'arrive de côtoyer des gens pendant des années sans avoir la curiosité de connaître un peu plus leur pays d'origine, l'histoire de leur pays, de leur communauté, leurs croyances. Et c'est vrai que nous avons besoin de mieux connaître les autres. Nous ne pouvons pas vivre ensemble dans les mêmes villes, dans les mêmes quartiers, dans les mêmes immeubles, sans aller un peu vers l'autre, sans apprendre des langues, sans apprendre un peu plus, sans connaître les cultures des autres, sans connaître les littératures, parce que les peuples se révèlent à travers leur littérature. Nous avons besoin de connaître les autres si nous voulons établir d'autres types de rapports entre les groupes humains qui se partagent cette planète. Et cela aussi passe par une place beaucoup plus grande accordée à la culture.
Une des lignes de force de votre essai est d'aspirer à une civilisation commune qui serait, dont un des fondements serait la culture, et basé sur deux principes: l'universalité de certaines valeurs essentielles et le respect de la diversité des expressions culturelles. Alors je sais que notamment la langue est un des instruments par lesquels vous entrevoyez une possibilité de rapprocher les individus et notamment et les civilisations auxquelles ils appartiennent, notamment en développant cette notion de langue d'adoption que vous avez notamment évoquée dans un comité qui s'est réuni au niveau européen. Alors cette langue d'adoption, définissez-nous-la et précisez-nous un peu ce que vous entendez par cette langue d'adoption.
Il y a effectivement un groupe qui a été réuni par la Commission européenne, où il y avait notamment Jacques de Decker. Et nous avons travaillé sérieusement, nous sommes réunis plusieurs fois, nous venions tous d'un peu partout en Europe, à Bruxelles. Nous sommes réunis en 4 ou 5 petits séminaires où nous avons discuté de choses importantes. Moi j'ai énormément appris au cours de ces réunions et il y a une notion qui s'est élaborée au cours de nos réunions et que nous avons transmise et nous espérons qu'un jour cette notion va faire son chemin et va être adopté. Le point de départ est le suivant. À un moment donné, on a dit en Europe qu'il fallait que tout Européen connaisse 2 langues étrangères, en plus de sa propre langue. Et le problème dans la situation actuelle des rapports entre les langues, c'est que la première langue étrangère est toujours l'anglais, et que à partir du moment où on a choisi l'anglais, il n'y a plus de deuxième langue, parce qu'on n'éprouve pas le besoin, et donc la connaissance de l'autre langue devient purement symbolique, et on va, de ce fait, vers une Europe où, chaque fois que des gens se réunissent, ils ne peuvent se comprendre qu'en anglais. Moi, l'anglais est une langue que je pratique, que j'aime, et c'est peut-être la langue que j'utilise le plus pour acquérir la connaissance, mais je trouve désolant que l'on en arrive à une situation où des langues importantes qui véhiculent une culture irremplaçable puissent être marginalisées, puissent disparaître pratiquement en faveur d'une seule. Je ne pense pas que ce soit la voie ni pour le monde, ni surtout pour l'Europe, pour laquelle le projet de base, c'est de bâtir une unité basée sur la diversité. Et donc, l'idée était de dire, comment faire en sorte que les gens en Europe puissent apprendre véritablement une autre langue. Et là, nous avons imaginé cette idée de la langue personnelle adoptive, qui serait une langue choisie par chacun, différente de la langue internationale, et qui serait la première langue étrangère apprise. Et donc chacun aurait une sorte de langue passionnelle qui constitue pour cette personne son évasion, sa passion, une langue qu'il connaîtrait et à travers laquelle il connaîtrait une culture, un pays, un peuple, et qui serait un peu sa marque distinctive. Vous savez, on parle toujours de l'importance de l'anglais, de l'utilité de l'anglais. Je n'en doute pas un instant. Mais quand vous avez 400 personnes qui présentent une demande pour occuper un emploi, et qu'on demande aux 400 personnes quelle langue étrangère vous parlez, et que les 400 personnes mettent l'anglais, aucun n'a de raison d'être choisi particulièrement. Ils ont tous la même compétence. Et on devrait dire aux gens, attention, si vous voulez avoir une chance de vous distinguer, vous devez connaître aussi une autre langue. L'anglais ne suffit pas. Y compris, évidemment, pour les gens dont l'anglais est la langue maternelle. Et donc, même au niveau de l'utilité, on a besoin d'une langue distinctive. Comment mettre en place cette langue? Je pense qu'on a les moyens, aujourd'hui, avec tous les moyens modernes, de faire une sorte de tranche horaire dans l'enseignement, au cours de laquelle, grâce aux moyens modernes, on pourrait apprendre n'importe quelle langue. Et il y a une idée qui est une idée qui vient conforter cette attitude, c'est de dire les relations entre les relations bilatérales entre les pays d'Europe devraient se passer principalement dans les langues de ces pays. Il n'y a aucune raison, par exemple, pour que les relations entre l'Italie et le Portugal se passent en anglais. Il est normal que les relations entre l'Italie et le Portugal se passent essentiellement entre les Italiens qui parlent le portugais et les Portugais qui parlent l'italien. C'est le bon sens. Et de cette manière, si on faisait cela au niveau de l'ensemble de l'Europe, aucune langue ne serait marginalisée, aucune langue ne se transformerait en dialecte local, et mieux que cela, les relations de chaque pays avec tous ses partenaires se feraient principalement dans sa langue et dans la langue des partenaires. Et donc, je pense que c'est une notion qui peut s'avérer révolutionnaire, non seulement pour la préservation des langues. Il ne s'agit pas seulement de préserver les langues pour les langues, quoique ce soit extrêmement important. Entre parenthèses, je n'imagine pas la France continuer dans un ensemble européen où la langue serait l'anglais, parce que la France se sentirait un peu comme le Québec au Canada. Donc elle se sentirait mal à l'aise. Et c'est vrai pour tous les autres pays. Je prends le cas de la France parce que c'est le pays où j'habite, mais c'est essentiel, je pense. Les gens ont besoin de sentir que dans cet ensemble européen, leur culture, leur langue est respectée, à sa place, est préservée, qu'à travers l'Europe, on est en train de préserver leur culture et non pas en train de l'effacer. Et pour moi, donc, c'est essentiel pour l'adhésion des citoyens à cet ensemble que l'on préserve leur langue et qu'ils sentent véritablement que le fonctionnement des relations entre les pays d'Europe favorise l'épanouissement de leur propre culture. Donc c'est une notion qui nous paraît essentielle, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé. Je pense qu'on a fait un beau travail, mais qui a besoin d'être continué et d'être répandu et d'être connu. Et pour moi, c'est une voie d'espoir et pour l'Europe et pour le monde.
Oui, parce que dans votre livre, vous ne vous limitez pas aux limites de l'Europe dans cette notion de langue d'adoption. Et vous en êtes d'ailleurs l'exemple vivant. Vous dites fort justement que vous êtes, vous, étant de culture à la fois arabe et européenne, étant de culture de l'Orient et de l'Occident, vous êtes capable de lire les journaux dans la langue de l'autre. Et donc, ça vous donne une perception qui est la perception que l'autre a de vous-même aussi. C'est un peu ce que vous aviez développé au tout début des croisades vues par les Arabes. C'était un peu la capacité que vous vous donniez de regarder du point de vue de l'autre la façon dont il vous voyait. Et c'est très, très révélateur et c'est très générateur de compréhension mutuelle.
Je pense effectivement qu'il est important que les migrants, dont je fais partie moi-même, puissent à la fois bien connaître la langue de leur société d'accueil et ne pas perdre le contact avec la langue de leur société d'origine, qui puisse s'adresser à l'une comme à l'autre. Et je pense que cette notion de langue personnelle adoptive peut favoriser cela. En disant que cela peut favoriser le rôle, l'intégration des migrants, j'introduis une idée qui, pour moi, a été une révélation, parce que j'ai beaucoup réfléchi à ces questions, et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en œuvrant pour l'intégration européenne, pour la préservation de la diversité culturelle européenne, on est en train de résoudre, par la même occasion et par le même mouvement, un problème majeur, qui est celui des communautés étrangères venues s'installer dans les divers pays européens. Je pense que en donnant à ces migrants une sorte de dignité culturelle, en respectant leur culture, en leur donnant la possibilité de pratiquer leur langue, on évite une dérive que l'on a observé dans diverses sociétés où les gens ont une sorte de culpabilité à l'égard de leur culture d'origine, un sentiment de frustration identitaire, justement parce qu'on ne sent pas que sa culture est respectée, et on réagit par une sorte de surenchère dans d'autres domaines, y compris dans le domaine religieux.